Hey, oh, à vous les Burgiens, votre magazine d'infos 100% local. Interview, reportage, suivez-nous, on est les seuls à vous y emmener. Bonjour à toutes et à tous. Place au jardinage sans pesticides et à l'agriculture bio. Les pesticides, il est interdit de les utiliser dans les espaces verts publics. Une mesure en place depuis le 1er janvier 2017. Bientôt, ça sera au tour des particuliers. Mais que deviennent ces produits une fois jetés? Interview à la fin de ce magazine. Mais tout de suite, direction Saint-Denis, les bourgs entrons dans la ferme Terre de Louisandre. Elle existe depuis 2010. Rencontre avec Cyril, Baptiste son associé et Rémi, il y travaille cette année. Cet après-midi, le trio récolte des radis. À vous les Burgiens sur Radio B 90 FM. Bonjour.
Bonjour. Bienvenue.
Merci. Je suis Audrey de Radio B.
Ok.
Ce matin, on était à la pluie. Là, on est en t-shirt sous les serres. C'est classe. Et puis, on ramasse de beaux radis, alors on est très content. On est dans la 5e semaine de récolte. Ceux-là ont été semés, je crois, vers le 16 janvier. Donc, je suis Cyril et je me suis installé en 2010, en maraîchage donc bio, diversifié, sur à peu près 3 hectares et demi. Et aujourd'hui, on a 5000 m² de serre, donc à Saint-Denis-les-Bourgs. Je suis isérois, à côté de Grenoble. Je suis venu ici parce que ma femme est du coin, donc j'ai suivi ma compagne. On a mis à peu près 3 ans à trouver une ferme dans l'Ain. C'est pas facile de trouver des terrains qui nous conviennent en plus, dans un endroit qui nous conviennent aussi. Alors, il n'est pas parfait cet endroit, mais finalement, on s'y sent plutôt bien. On est à 3 km de Bourg, on a la clientèle pas loin, on a toutes les activités pour les enfants pas loin, et puis en même temps, on est en pleine campagne. On produit près d'une cinquantaine de légumes différents, c'est pour ça qu'on n'est pas très mécanisé pour tout ce qui est récolte. Tout produit de saison, on ne fait pas de hors-sol, donc on produit en bio, en pleine terre. On a les serres qui sont là pour allonger les saisons, parce que sinon l'hiver on n'aurait presque pas de verre, pas de salade, pas de blettes, pas d'épinards, pas de radis à cette époque. On arrive à avoir des tomates aussi l'été, ici on est quand même à près de 100 km au-dessus de Lyon, c'est bien au nord pour faire de la tomate, si on les mettait à l'extérieur on prendrait beaucoup trop de risques. À partir de dimanche, là, il commence à repleuvoir. Ce qui nous pose problème par rapport à notre programme sur la plantation de patates. Donc, dimanche matin, travail du sol et puis préparation. Et puis l'après-midi, suivant les conditions, peut-être qu'on plantera les patates. Qu'en penses-tu?
Vu ce qu'ils annoncent la semaine prochaine et qu'on est censé les planter la semaine prochaine, il faut peut-être mieux qu'on prenne une semaine d'avance que 2 semaines de retard.
Après, on travaille en planche permanente. C'est une technique qui n'est pas très connue encore. En Rhône-Alpes, elle se développe pas mal. Ça consiste à ne pas labourer notre terre, à avoir toujours le même passage de roue de tracteur et à travailler le sol sur une dizaine de centimètres. Et avec des outils spécifiques, on va concevoir des planches de 1,25 m à peu près de large sur 50 mètres long. Et pour remplacer la labour, on va fonctionner avec beaucoup d'engrais verts qui vont aller structurer le sol en profondeur, qui vont apporter de la matière et capter, avec certains engrais verts, l'azote qui sera restitué au sol par la suite. Ce qui ne nous empêche pas de mettre du compost en plus et des engrais organiques sur certains produits. Voilà, mais ça fait 8 ans qu'on pratique ces planches permanentes et au bout de 8 ans, on commence vraiment à voir ce que notre terre peut produire. Elle s'est restructurée, elle est vivante, et du coup, elle nous donne des légumes en rendement, on va dire, équivalent conventionnel sans problème.
Puis si c'est dimanche, bah c'est dimanche. Hein.
Avec le printemps qu'on a en ce moment, on ne sait pas ce qu'il va y avoir derrière. Hein. Donc on va y aller tranquillou, on va voir ce que ça donne, mais si on peut, on le fera. Et puis ça va peut-être nous alléger la semaine, le programme de la semaine prochaine. On a quand même des grosses plantations en ce moment, toutes les tomates, aubergines, concombres. Ça fait vite du job dans la semaine. Si on le fait dimanche, on sera peut-être moins pressé.
On a pu planter les oignons l'autre jour, là, mais ça aurait pu ne pas faire.
En bio, du fait de ne pas avoir de produits ni d'engrais chimiques, on va être obligé de réfléchir différemment, avec beaucoup plus de préventifs sur nos cultures. On va essayer de voir le sol aussi autrement. Un sol, pour moi, c'est un écosystème, tout comme l'extérieur, ça veut dire qu'il est vivant. Il faut en prendre soin, il faut essayer de l'améliorer. Et par nos techniques que l'on pratique aujourd'hui, je pense qu'on arrive à ça. Ce sont des techniques qui sont en constante évolution. On se remet tout le temps en question, on essaye d'améliorer les choses. Et non pas l'inverse, on n'essaye pas de les détruire. Si on a appauvri les sols avec notre agriculture conventionnelle aujourd'hui, c'est par les pratiques de travail du sol principalement, qui ont permis le lessivage, qui ont permis le ruissellement, qui ont permis la pollution des eaux. C'est ce que j'aime le printemps. Il y a plein de champs d'oiseaux dans les... On replante beaucoup de haies tout autour. C'est hyper important pour notre ferme. On recrée des écosystèmes. Du coup, on n'a pas de problème de pucerons. On a des pucerons, mais on a plein d'auxiliaires. Il y a un équilibre qui se recrée. Les pucerons, c'est vraiment un truc qui ne nous inquiète plus du tout. On est plutôt plus inquiété par la grêle et ces choses-là que le puceron. Rémi, je vais t'envoyer fermer un peu les serres, s'il te plaît, parce qu'il fait de plus en plus frais. Donc tu fermes tout sauf les épinards et les blettes. Tu penses aux petites patates nouvelles qui sont dans le tunnel 7, là-haut, aux choux aussi. Tu peux laisser entrouvert du côté des oignons. Voilà, mais tout le reste, tu fermes, sauf les fraises.
D'accord.
Les fraises qui doivent être pollinisées encore.
Si tu passes par là-bas en haut, il y a la bâche noire là qui couvre là où... Il va y avoir les melons, tout ça, qui a tendance à se soulever avec le vent, là. La bâche qui est à côté du bitunnel numéro 3, là. Enfin, c'est juste voir s'il n'y a pas du vent qui est en train de s'engouffrer dedans.
Si on veut préserver notre planète, il faut la connaître. Il faut connaître la base de notre vie. La base de notre vie, c'est la Terre, quoi. C'est la Terre qui nous permet de nous nourrir, qui nous permet de respirer. Et si on revient pas à ça... Si on ne revient pas un peu vers cette nature, eh ben oui, je pense que oui, l'homme est perdu, oui. on veut continuer par ces nouvelles fermes urbaines ou même on voit en ce moment tous les paysans qui râlent à cause du glyphosate, de l'interdiction, etc. Mais oui, il faut faire autrement. On a les moyens de faire autrement. Et si on pense à nos enfants, si on pense au futur, si on veut avoir ne serait-ce qu'un minimum de futur, eh ben oui, il faut arrêter le glyphosate et il faut trouver d'autres moyens. Mais on les a déjà, ces moyens, finalement, on les a. Et c'est tout un chamboulement de l'agriculture au complet auquel il faut arriver.
On n'est pas monté voir les oignons, ce que ça avait donné du coup.
Ouais, bah, je pense que les filets qu'on a mis dessus, ça a dû bien les protéger.
Ouais.
Ça va bien protéger, du moins, pas les oignons, mais la terre.
Oui, parce que les oignons...
Je baisse quand même un petit peu les épinards et blettes ou je laisse ouvert comme ça, parce que là, c'est bien noir dehors. Hein.
Et bah, qui baisse un peu.
Ouais, baisse un peu, ouais.
Qui baisse un côté entier.
C'est pas ouvert de l'autre côté des blettes.
J'ai ouvert tout à l'heure.
Ouais, et bah ça, tu laisses fermer, tu baisses un peu les blettes, mais pas trop.
Quel est l'objectif premier de notre ferme aujourd'hui? C'est pas de produire forcément des légumes. Aujourd'hui, moi, c'est plus ce que je désire. Je le fais parce que ça me permet d'avoir une base pour accrocher les gens et leur dire, regardez, on peut nourrir le monde en bio. On a des beaux légumes, on a du rendement. Tout à l'heure, on s'amusait à compter combien de gens on arrivait à nourrir avec notre ferme. C'est à peu près entre 700 et 800 personnes sur 2,5 hectares. Eh ben, pour une ville de 50 000 habitants comme Bourg qui est alentour, eh ben, il faut entre 80 et 90 fermes comme la nôtre. Allez, prenons 5 hectares de moyenne, eh ben, ça fait 450 hectares. La ferme qui est juste à côté de chez nous, elle a 450 hectares. On peut nourrir le monde. Et c'est ça le but de cette ferme-là. C'est aussi de démontrer que techniquement, on a les moyens aujourd'hui, même d'organisation, humainement, de nourrir le monde en bio. Et de montrer qu'on peut faire les choses en préservant notre planète, enfin même la planète de nos enfants.
En ce moment, c'est un peu l'hiver maraîcher. L'hiver maraîcher, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de produits, pas beaucoup, on n'est pas très diversifié, parce que ça n'a pas eu le temps de repousser, on replante. Donc on va vivre avec quelques produits, blettes, épinards, salades, radis, et puis tout ce qui reste, hein, produits d'hiver, carottes, courges, potimarrons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qui remplit un peu le banc, les patates. Voilà, mais d'ici 3 semaines, allez, des fraises de printemps, des carottes nouvelles, les patates nouvelles, les oignons nouveaux, l'ail nouveau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore?
Les courgettes, les choux-fleurs qui vont suivre un peu plus derrière, quoi. Allez, petits pois.
Des petits navets nouveaux, bah les navets on en a marre. Hein. Mais quand ils sont nouveaux,
ouais,
c'est quand même pas
pareil. Ouais, mais les nouveaux, c'est comme des radis, quoi.
Ouais, ça se mange tout cru.
Ouais.
Et je crois qu'il y a beaucoup d'émissions en ce moment qui jouent en notre faveur. Et chaque année, on a des gens qui arrivent et qui nous disent « Oh là là, j'ai vu comment ils traitaient les poireaux ou les patates. Maintenant, je veux manger bio. » Le problème, c'est qu'ils sont confrontés à une réalité. Et quand ils arrivent ici, ils vont voir que... Alors, on n'a pas des prix excessifs, mais ils n'ont pas l'habitude non plus. Voilà, ils ont l'habitude d'avoir des prix de grande surface, parfois qui ont d'ailleurs largement augmenté hein, depuis quelques années. Ils se rapprochent des nôtres. Mais quelqu'un qui met le pied, on va dire, dans le bio, il met à peu près 10 ans avant d'arriver à manger peut-être 100% bio ou 90% bio.
T'as vu la salade, comme elle va être belle la semaine prochaine? Elle est énorme. On aurait peut-être dû la ricoter cette semaine. Ah ouais, c'est le petit coup de chaud de la semaine dernière. Là,
nous, si on vend en direct aujourd'hui, c'est pour avoir le contact avec le client. La confiance et la transparence. Quand j'ai des gens qui viennent, qui m'appellent, j'en ai de temps en temps. Oui, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous avez en légumes et à combien? Je leur dis, écoutez, j'ai beaucoup de légumes, je vous invite à passer à la ferme. Vous regardez les légumes, vous goûtez et après on discute de tout ça. Et je vous explique pourquoi est-ce que le bio coûte plus cher. On peut en parler, bien sûr. Mais les gens, il faut qu'ils viennent là parce qu'il faut qu'ils aient confiance en nous, quoi. Et s'ils ont confiance en nous, on n'a pas besoin de justifier nos prix. Parce qu'ils savent qu'on va mettre le juste prix. On va mettre le prix qui va nous permettre de vivre. Le prix qui va nous permettre de nous tirer un salaire décent. Le prix qui va nous permettre de travailler tant d'heures sans en faire 70 par semaine toutes les semaines, comme beaucoup de producteurs font. Hein. Et un prix qui va protéger notre santé. Avec ma botte de radis, là, ça me permet d'avoir de la main-d'œuvre, ça me permet de travailler un peu moins, et ça me permet d'accueillir des classes pour lesquelles on va faire l'éducation de l'environnement. Ça pourrait me permettre peut-être de nourrir à plus bas prix aussi l'école du village. Ça sert à tout ça, une botte de radis, au prix du bio, aujourd'hui. Si on ne mettait pas ce prix-là, on aurait toujours la tête dans le guidon, parce qu'on chercherait à avoir un peu plus d'argent, parce qu'on en a besoin, parce que ben, le moindre problème... sur une culture, c'est une grosse perte pour nous, donc il faut savoir devancer ça. Et en ayant ce prix, ça, eh ben, on a du temps, par exemple, pour vous accueillir, pour parler de tout ça, et pour amener les gens à la bio, en réfléchissant tout simplement sur l'avenir, sur demain. Ah oui, c'est vrai que peut-être que pour mes enfants, il faudrait que je mange... des produits qui viennent d'une agriculture qui est plus respectueuse pour leur planète. C'est, encore une fois, c'est notre objectif.
Tu veux fermer aussi celui-là et puis bah, du coup tout le reste à cause de la pluie? Désolé, hein, Rémi. Bon, bah, il repleut, c'est dommage. La terre, elle est séchée. Bon, il va peut-être pas beaucoup pleuvoir.
Non, mais ça se trouve, ça va se passer, je crois. Mais ce matin, ça tenait. Hein.
Là, il y a même eu de la grêle ce week-end. Vous savez, non?
Ouais, mais
à Tossia.
À Tossia, ouais.
Ah, mais attends. Hein.
Ouais, ouais, non, mais on a de la chance pour le moment. Hein.
La grêle à cette époque, quoi. Espérons une belle année. Mais rien n'est écrit, rien n'est acquis.
Un reportage réalisé à la ferme Terre de Louis-Andre à Saint-Denis-les-Bourg. Elle a vu le jour en 2010. Aujourd'hui, ils proposent une vente à la ferme et sont présents chaque samedi au marché de Bourg-en-Bresse. Il y a aussi le panier de Louis-Andre, c'est ce qu'on appelle une AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Le principe, des consommateurs s'engagent via un abonnement à récupérer tout au long de l'année leur panier, des paniers remplis selon la production qui peut varier selon la météo.
Radio B.
Retrouvons Cyril de la ferme bio Terre de Louis-Andre. Je lui ai demandé son avis sur quelques idées reçues autour du bio.
On entend souvent, le bio c'est cher, ce n'est pas pour tout le monde. Qu'en pensez-vous ?
Moi j'estime que, allez, on va dire 90 à 95% de la population peut manger bio. Manger bio, c'est manger autrement. Ça veut dire qu'on ne va pas manger de la viande tous les jours. On n'a pas besoin de viande tous les jours. Donc enlevez le budget viande, vous allez voir que vous pouvez manger quasi bio toute la semaine, surtout. Un budget pour 4 personnes en légumes à la semaine, en bio, quand on mange pas mal de légumes, c'est 25 euros. Bah 25 euros sur le mois, c'est 100 euros, c'est pas non plus excessif. Quand on voit comment les gens remplissent leur caddie avec les sodas et tout ce qu'on veut, on les a rapidement. C'est changer simplement sa consommation, ou les objectifs de sa consommation. Et ben, au lieu de m'acheter une paire de baskets tous les mois, ou une tenue de jogging à mon gamin de marque qui va coûter 200 euros, ben, ou le dernier iPhone qui va me coûter 500-600 euros minimum, et voire plus, parce que je ne sais même pas combien coûte un iPhone. Et c'est le budget à l'année de 2 personnes en légumes, en bio.
On entend souvent, le bio n'est jamais vraiment du bio, si dans un autre champ, on utilise des pesticides.
Ben, évidemment. Alors j'ai souvent des gens qui passent à côté de mon banc et qui vont me dire « Oui, oh, avec votre bio, là, vous me faites bien rire. » La terre, elle a des résidus, l'air, il est pollué. La neige, partout, c'est tout pollué. Je lui dis « C'est vrai, monsieur, vous avez raison. » Mais le bio, c'est pas dire qu'on fait du naturel. C'est dire qu'on fait mieux qu'avant. C'est dire qu'on fait avec transparence, parce qu'on est contrôlé. Ce qui n'est pas très logique, d'ailleurs. Ça devrait être les conventionnels qui devraient être contrôlés. Et eux qui devraient payer pour polluer. Mais le bio, c'est produire le plus respectueusement possible envers la planète de nos enfants.
On entend souvent les produits bio s'abîment plus vite.
Il n'a peut-être pas eu de conservateur, il a été moins traité. Quand vous les achetez en grande surface, clairement, il a été cueilli il y a peut-être une semaine et demie, avec le transport, le temps de la vente. Ouais, forcément, ça s'abîme vite. Venez chez le producteur. Vous verrez qu'il ne s'abîme pas vite. Nous, tous nos clients, ils conservent nos légumes une semaine, sans problème. Sans problème. Notre salade, vous l'achetez chez nous, chez n'importe quel producteur autour, qui l'aura cueilli un ou deux jours avant. Ils s'abîmeront bien moins vite. Et vous aurez bien moins de déchets dessus. J'ai encore un client qui a un restaurant. Il m'a dit, en achetant les aubergines ici, il faisait deux fois plus de caviar d'aubergines. Parce qu'il y a moins de déchets. Parce qu'il y a encore de l'eau dedans, parce qu'il y a encore des choses dedans.
On dit souvent le bio, c'est un effet de mode du marketing, ça ne change pas vraiment les mentalités.
Eh ben, c'est comme tout, dès qu'il y a quelque chose qui marche, il y a des gens qui sont là pour en profiter. C'est pour ça qu'il faut faire confiance à une agriculture humaine et locale. Il y a peu de gens, en tout cas, qui vont se lancer dans la bio en petite ferme comme la nôtre, qui feront ça à cause de la vague. Simplement parce que c'est un métier qui est tellement difficile qu'on ne fait pas ça. Il y a un moment, il y a le plaisir, mais à un moment, c'est usant. C'est très, très usant. Très, très usant. C'est tellement de rigueur pour obtenir des produits comme on peut avoir que c'est vraiment usant. Oui, il y en a qui vont se lancer dedans, peut-être, pour ça. Ceux qui vont faire du gros, des hectares de patates, peut-être. Ils vont utiliser des produits qui sont autorisés en bio, des produits que nous-mêmes on n'utilise pas. Parce que oui, en bio on peut polluer aussi. Oui, il y a des insecticides bio qui sont faits à base de plantes. Nous on est contre ce genre de pratique, donc on le fait pas. Parce que ce serait revenir à l'agriculture conventionnelle d'aujourd'hui. C'est facile de faire ça. Tant qu'on a une petite ferme, on peut maîtriser plus facilement les attaques, les choses, les herbes, etc.
Cyril de la ferme bio Terre de Louis-Andre à Saint-Denis-les-Bourg.
Radio B. Radio B.
Les scientifiques avaient tiré la sonnette d'alarme déjà depuis longtemps, mais là on assiste à une prise de conscience à tous les niveaux, que ce soit les agriculteurs, les particuliers, qu'on ne peut pas continuer dans cette voie-là. On ne peut pas continuer à ce que 70% des insectes aient disparu dans les dernières décennies en Europe, à ce que 30% des oiseaux, par conséquent, aient disparu aussi. Il faut vraiment qu'on change de paradigme, qu'on change notre façon de travailler avec la nature ou de se servir de la nature.
Restez à l'écoute. L'interview d'Yves Christin, conseiller délégué au développement durable et à l'environnement à K3B, la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, c'est dans quelques minutes. De Perpignan-Limignana sur Radio B avec Garden of Love, un titre auquel a participé Peter Hook, musicien anglais. À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM. Nous allons parler des produits phytosanitaires. Vous avez sûrement entendu parler du glyphosate, ce désherbant bientôt interdit en France. De son côté, l'Union européenne l'a encore autorisé pour 5 ans. Retour en France, depuis le 1er janvier 2017, les produits phytosanitaires ou pesticides sont interdits dans les jardins et espaces verts publics. Autre interdiction, les particuliers ne peuvent plus acheter ces produits en libre-service. En clair, ils ne sont plus disponibles directement en rayon. D'autres interdictions sont à venir. Le 1er janvier 2019, leur vente et leur utilisation sera définitivement interdite aux particuliers. Pour résumer, plus personne ne pourra utiliser ces pesticides et les agriculteurs sont invités à moins les utiliser. Yves Christin, bonjour.
Audrey Ranandi, bonjour.
Vous êtes conseiller délégué au développement durable et à l'environnement à K3B, la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, et vous êtes aussi agriculteur.
Absolument.
Que pensez-vous de ces mesures prises pour interdire les produits phytosanitaires, les pesticides ?
Les scientifiques avaient tiré la sonnette d'alarme déjà depuis longtemps, mais là on assiste à une prise de conscience à tous les niveaux, que ce soit les agriculteurs, les particuliers, qu'on ne peut pas continuer dans cette voie-là. On ne peut pas continuer à ce que 70% des insectes aient disparu dans les dernières décennies en Europe, à ce que 30% des oiseaux par conséquent aient disparu aussi. Il faut vraiment qu'on change de paradigme, qu'on change notre façon de travailler avec la nature ou de se servir de la nature.
C'est une tendance qu'on voit aussi chez les agriculteurs ?
Voilà, c'est une tendance qu'on voit chez les agriculteurs. Dans mon village, il y a, on va dire, maintenant les deux tiers des agriculteurs qui sont passés en agriculture biologique, qui faisaient déjà de l'agriculture raisonnée, et puis un certain nombre d'autres envisagent cette solution, parce qu'ils se sont aperçus que les rendements plafonnaient, que les tarifs au niveau qui sont basés sur des cours mondiaux ne permettent plus de vivre correctement, et qu'en plus, on s'aperçoit bien des dégradations qui sont faites au sol et à la nature.
Et aussi pour leur santé.
Pour leur santé aussi, oui, bien sûr.
Les gens ne pourront bientôt plus utiliser des pesticides, ils vont les jeter. Et là, qu'est-ce qui se passe ?
Concernant les particuliers, l'agglomération a prévu dans ses déchetteries de collecter ces déchets et d'assurer une chaîne de traitement sécurisée pour que ces déchets ne polluent pas l'environnement. Il est évidemment hors de question qu'ils aillent dans la nature, que ce soit par les stations d'épuration ou que ce soit aussi dans les déchets ménagers, puisqu'ils ne sont pas du tout acceptables dans les déchets ménagers.
Oui, ce que je voulais dire, on ne peut pas, par exemple, les jeter dans les toilettes.
Absolument pas. Il faut absolument. Ce sont des déchets dangereux qui ont vocation normalement à être utilisés sur le terrain et ils ne doivent pas être mélangés à l'eau.
Donc la seule alternative possible pour ces déchets, c'est donc les déchetteries.
Voilà, ce sont les déchetteries et un certain nombre de nos concitoyens font déjà la démarche puisque dans les trois dernières années, plus de 4 tonnes par an ont été collectées dans les déchetteries.
Donc il y a deux types de déchets de pesticides, il y a les produits phytosanitaires non utilisés, donc voilà. C'est-à-dire que par exemple ceux qu'on a stockés pendant des années maintenant qui sont périmés ou qui sont devenus interdits, et il y a les emballages vides de produits phytosanitaires, donc les emballages plastiques, les bouteilles de verre, les sacs en papier, etc. Donc ça, qu'il soit rempli ou vide, on peut venir le déposer en
absolument,
déchetterie.
Absolument, parce que dans un cas comme dans l'autre, ils peuvent présenter un danger.
Yves-Christin, quelles sont donc les précautions à prendre quand on ramène ces produits en déchetterie, si on peut les rappeler ?
Pour que ces déchets soient valorisés correctement, il faut qu'ils soient apportés dans les déchetteries en emballage fermé et avec une étiquette pour qu'on puisse bien identifier quel type de produit c'est. C'est ensuite le gardien qui doit les placer lui-même dans le contenant prévu à cet effet, afin qu'il n'y ait pas de risque d'émanation entre différents types de produits qui pourraient réagir entre eux.
Alors, une fois déposés en déchetterie, que deviennent ces produits phytosanitaires ?
Alors, ces produits sont collectés par une société spécialisée qui les transporte dans les conditions prévues par la législation, c'est-à-dire des conditions de sécurité optimum. Ils sont ensuite incinérés dans une société aussi, elle, spécialisée, qui est située dans l'Isère, s'appelle la société Trédi. On peut les citer parce que je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de sociétés qui fassent ça. Et puis, on peut dire aussi que ces 4 tonnes de produits mêlés à tous les autres produits de toute la région, sont valorisés au niveau énergétique avec production de chaleur. Et la chaleur est utilisée par une entreprise voisine, un industriel voisin de cette société. Et que pour vous dire un peu ce que ça peut représenter, c'est 14 mégawatt-heure annuelle qui sont produits, ça veut dire l'équivalent de la consommation d'une ville de 30 000 habitants.
Alors on parle donc de déchets dangereux, mais alors on peut se poser la question, est-ce qu'une fois traités, ils restent toujours aussi nocifs ?
Ah non, parce que le traitement à 850 degrés, détruit toutes les molécules chimiques. Et d'autre part, ces entreprises sont équipées d'un système de filtre, évidemment, et toutes les fumées, tous les produits toxiques sont précipités par un système de nettoyage des fumées, ce qui fait qu'on ne rejette dans l'atmosphère que des choses non polluantes, quoi, que peuvent être le CO2 ou d'autres choses comme ça. Mais tous les produits chimiques ont été retirés par des systèmes de traitement.
On parle donc maintenant des alternatives aux pesticides. Il y a même une semaine spéciale. C'était du 20 au 30 mars. Donc vous êtes agriculteur. Est-ce que vous-même, vous utilisez ou vous avez des personnes autour de vous, d'autres agriculteurs qui utilisent des solutions naturelles comme alternative aux pesticides ?
Alors oui, c'est dans une réflexion globale concernant une autre forme d'agriculture. Cette forme d'agriculture qu'on peut retrouver aussi dans les jardins prévoit d'associer les espèces de manière différente, puisque certaines espèces protègent d'autres espèces. La nature est bien faite. Hein. À la fois, les plantes peuvent se protéger les unes les autres, et puis aussi dans ce qu'on appelle l'assolement, c'est-à-dire la rotation des cultures. On va amener les cultures de telle manière qu'on n'ait pas des parasites qui se développent. Parce que si on met une seule culture pendant plusieurs années, on va avoir des parasites qui vont se développer. Par contre, si on assure ce qu'on appelle l'assolement, c'est-à-dire la rotation des cultures, eh bien on n'aura plus ce phénomène. Dans un jardin, c'est un peu pareil. En ne mettant pas les mêmes légumes au même endroit, on évitera l'apparition justement de problématiques, que ce soit des moisissures ou que ce soit des insectes. Mais il existe aussi la possibilité d'utiliser des insecticides naturels, ou des techniques naturelles, que ce soit pour la protection contre les maladies. Par exemple, le sulfate de cuivre en est un. Et il existe des produits qu'on peut trouver dans les jardineries, et donc avec l'estampille produits naturels, quoi, qui vont permettre d'assurer la protection des plantes.
Et pour les agriculteurs, on vous accompagne aussi pour justement abandonner les pesticides ?
Lorsqu'on utilise des pesticides, et dans un cas comme dans l'autre, pour les particuliers aussi, et pour ceux qui en ont encore jusqu'au moment où ils n'auront plus le droit de les utiliser, ce qui est important, c'est de bien respecter les doses, de respecter les périodes d'application. Certains insecticides ne sont pas, par exemple, à apporter lorsqu'il y a des floraisons, puisque les abeilles vont aller sur les fleurs. Donc voilà, il y a des précautions qui sont à prendre, bien respecter les doses, faire attention. Et puis, pour ce qui concerne l'agriculture, il faut savoir que ceux qui utilisent les pesticides, non seulement doivent avoir des conseils écrits, où les doses seront expliquées de manière très détaillée, où l'éventualité de réduire la dose est aussi inscrite sur la préconisation du distributeur. Et puis aussi, il y aura une ligne où on dira est-ce qu'il existe une technique alternative et propose à l'agriculteur d'utiliser une technique alternative. Donc, on est bien dans un mouvement qui va vers la prise de conscience de cette toxicité et voir comment on peut en sortir, quoi.
Yves Christin, conseiller délégué au développement durable et à l'environnement à 4B, la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse.
Radio B.
Faire sans les pesticides, c'est ce que fait Bourg pour le cimetière de la ville depuis 2011. Selon leurs chiffres, ils sont passés de 100 litres de pesticides en 2010 à 29 litres en 2016 et donc à zéro depuis 2017. Une décision prise par Bourg, la ville n'était pas obligée de le faire. La réglementation pour l'interdiction des pesticides ne s'impose pas aux cimetières communaux. À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Bonne soirée sur Radio B. Retrouvez À vous les Burgiens tous les lundis à 17h15, rediffusion mercredi à 13h, samedi et dimanche à 8h et à tout moment sur notre site radio-b.fr.